Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
J'aimerais lire avec vous d'abord dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui emplit tout en tous. Et dans la première épître de Saint Jean, au deuxième chapitre, à partir du verset 12, la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. On m'a demandé, chers frères et sœurs, de vous parler de ce grand sujet de l'Église, dont j'ai parlé en particulier lors de la retraite des pasteurs et cadres des Églises du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a quelques semaines. J'aimerais donc voir avec vous, brièvement, quelques indications que la Bible nous donne sur l'Église, et en particulier sur la croissance de l'Église. Je sais bien que la plupart d'entre nous, nous savons tout ça depuis longtemps. Je pense qu'il est nécessaire de surveiller nos fondations, sur quoi repose notre foi. On est en train, à la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, de construire de nouveaux bâtiments. On est en train, en particulier, de poser les fondations et de faire le rez-de-chaussée d'un grand immeuble qui servira plus tard de réfectoire et de salle de réunion pour les étudiants. Et notre frère Philippe Richard, qui est chargé des travaux, me disait le nombre impressionnant de tonnes de ciment qui sont entrées dans les fondations. Et je pense que si la sagesse humaine veut que les architectes soignent particulièrement les fondations des maisons, notre foi doit aussi reposer sur des fondations solides, et trop souvent nous dérivons spirituellement faute d'avoir dépensé assez d'efforts et de peine à établir des fondations solides. Et il me semble qu'une fondation nécessaire est celle de l'Église, que nous devons savoir ce qu'est l'Église et comment l'Église doit vivre et se développer. Nous savons que la Bible parle souvent de l'Église, bien que Jésus n'en ait parlé que deux fois, c'est lui qui l'a instituée. Et ce sont les apôtres qui en ont posé les fondations, et c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver notre guide en la matière. Je vous rappelle que l'Église n'est pas une société humaine. Nous avons trop souvent dans nos habitudes de considérer que l'Église n'est qu'une association parmi d'autres. Je sais que c'est la vérité légale. Pour vivre dans une société telle que la nôtre, il faut un statut social, et nous sommes une association comme les associations de joueurs de boules ou de pêcheurs à la ligne, ou les orphéons municipaux. Mais je crois que nous devons bien comprendre que nous ne sommes pas une association comme une autre. Ce n'est pas parce que nous sommes unis par des goûts communs, ce n'est pas parce que nous avons une origine géographique commune ou que nous avons des hobbies que nous partageons, que nous sommes rassemblés en un groupe homogène. En fait, quand on y réfléchit, on comprend que l'Église est en elle-même un miracle incroyable qui unit des gens qui n'ont rien qui les unisse sur le plan humain. Ni l'âge, ni la profession, ni la couleur de peau, ni l'origine géographique, ni même les pensées politiques. Nous sommes d'une diversité extrême et nous ne trouvons pas toujours forcément que notre compagnon est celui que nous aurions choisi si nous avions pu suivre nos impulsions personnelles. Mais il se trouve que nous avons été agrégés, nous avons été mis ensemble par un acte de Dieu. Et nous ne devons jamais oublier que l'Église n'est pas une initiative humaine, n'est pas le fruit d'un travail humain, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une initiative qui lui appartient et qui, comme toutes ces initiatives, ont une grande part de mystère. N'arrivons pas toujours à comprendre pourquoi Dieu a pris celui-ci et celui-là et celle-là pour en faire une Église. Mais c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je pense qu'un des grands drames de l'Église est que si souvent, ça n'a été qu'une société parmi d'autres, une création humaine, comportant les mêmes aléas que d'autres sociétés humaines, succombant à la volonté de puissance, à la volonté de domination, à toutes sortes de vices, qui sont le propre des groupements humains dans leur orgueil et leur égoïsme. Et nous ne devons pas oublier que l'Église est quelque chose, ou plutôt quelqu'un, que Dieu fait lui-même. Il y a beaucoup d'images dans la Bible pour nous faire comprendre ce qu'est l'Église. L'une des plus parlantes, sans doute, c'est celle du corps. Mais pas un corps détaché, c'est d'abord un corps qui est greffé à Jésus-Christ. Et il y a une relation qu'il faut bien voir entre l'Église et Jésus. C'est la relation très précise qui existe entre le corps et la tête. Trop souvent, lorsque nous parlons du corps de Christ, de l'Église corps de Christ, nous envisageons que ce corps est comme un corps de cavalerie ou un corps, comme nous avons l'habitude de parler de corps sur la terre, une espèce de société humaine qui serait un corps avec un esprit de corps. C'est absolument pas la notion biblique. L'Église est un corps dans la mesure que c'est où c'est le corps d'un homme dont la tête est Jésus. Et l'existence du corps, la vie du corps n'est possible que dans la mesure où elle est en relation avec la tête. Et c'est là, un des premiers mystères de l'Église, que Jésus en est le fondateur, mais qu'il en est aussi la tête très réellement. Et je regrette quelquefois que nos traductions préfèrent traduire par chef que tête. Vous savez que chef, c'est un vieux mot qui veut dire la tête. Mais quand ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans les Éphésiens dit que Dieu a établi Jésus pour tête suprême de l'Église qui est son corps, ça veut dire quelque chose de très précis, que Dieu veut faire avec ce corps qui est l'Église et la tête qui est Jésus un être nouveau, un homme neuf, que le corps et la tête sont absolument inséparables. Et trop souvent, nous connaissons une église guillotinée, une église qui est sans relation avec sa tête et qui essaye de vivre sans se rendre compte qu'un corps sans tête est un cadavre. Et que ce corps ne peut pas non plus avoir deux têtes, car il y a certaines églises qui ont cru bon d'avoir un effet de tête de rechange, d'avoir un vicaire pour la tête de l'église, comme s'il pouvait y avoir une tête qu'on déboulonne et qu'on remplace par une autre tête à côté. L'église ne doit avoir qu'une tête et ne peut pas vivre sans sa tête et ne peut exister qu'avec cette relation. Et là, nous pourrions multiplier les analogies. Je vous laisse libre de le faire. Nous savons bien que toutes les fonctions du corps dépendent de la tête. C'est un espèce d'ordinateur qui est entièrement programmé, et même les relations des membres entre eux, pour que lorsque mon œil a vu quelque chose et que la main saisisse l'objet, il faut que toutes ces indications soient transitées par le cerveau, et que là il y a toute une opération qui s'opère dans la tête, et qui fait que finalement, un membre pourra assister l'autre, et que la vie du corps pourra se dérouler de façon satisfaisante. Et c'est ainsi que nous devons comprendre que ce corps n'est pas, cette expression que la Bible répète, n'est pas seulement une image, pour nous faire comprendre ce que c'est, mais c'est l'expression d'une réalité. Dieu veut créer un homme neuf, de même qu'il a créé l'homme Adam. Il veut créer, nous dit-on, un deuxième Adam. Et le deuxième Adam n'est pas seulement Jésus, c'est Jésus et son corps qui forment un ensemble. Et c'est là un des mystères incompréhensibles de Dieu qui a voulu nous associer à lui de telle manière que non seulement nous sommes ses fils et ses filles, nous avons cette image de l'adoption et de la filiation, mais nous sommes vraiment intertissés ensemble de telle manière que nous sommes comme les organes, comme les cellules d'un corps dont lui veut être la tête. Et l'Église ne peut exister sans cette relation. Et toute Église qui n'est pas en relation avec sa tête est une Église morte. Et Dieu veut véritablement créer cet homme nouveau, constitué par l'Église et Jésus. C'est vrai pour toutes les formes de l'Église. Or, il y en a deux que la Bible nous présente. L'Église universelle, l'Église qui comprend les croyants de tous les âges et de toutes les races. Cette Église dont la plus grande partie est déjà dans la gloire. Cette Église est véritablement le corps de Christ et l'unit à sa tête déjà dans la réalité. Mais il y a sur la terre une église visible, une église locale, emprisonnée dans le temps et dans l'espace. Et c'est cette église-là qui nous intéresse, puisque nous y sommes. Et cette église-là, dans son aspect local et temporel, est aussi cet homme neuf que Dieu veut créer par son esprit. Ce corps qui doit être totalement dépendant de la tête. Et cet homme neuf sur la terre, nous nous apercevons qu'il ne doit pas subsister tel qu'il est, mais comme tout être vivant, il doit grandir, il doit se développer, il doit croître. Et je pense que c'est quelque chose de très important, car trop souvent nous avons une idée très statique de l'Église. Très souvent, nous nous contentons de préserver ce qu'elle est, de la conserver telle qu'elle, et dans bien des circonstances c'est déjà difficile. Mais je crois que nous ne devons pas perdre de vue que tout être vivant doit grandir, et cette loi de nature, c'est la loi créationnelle, c'est la loi de Dieu, et toute Église doit grandir. C'est un peu aujourd'hui la tarte à la crème, la croissance de l'Église. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, des conférences qui se tiennent sur la croissance de l'Église. Et je crois que c'est en effet très important de comprendre que l'Église ne devra se contenter d'être. Mais il faut qu'elle grandisse, qu'elle croisse, qu'elle soit dynamique. Et je crois qu'un des pièges de ce mouvement actuel de la croissance de l'Église, c'est que cette croissance est trop souvent vue simplement quantitativement, numériquement, et on essaye de travailler les statistiques. Ce n'est pas un mal, et je pense qu'une Église qui grandit doit en effet se multiplier, aussi par ses cellules qui doivent se multiplier. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que cette croissance de l'Église est avant tout une croissance spirituelle, une croissance qualitative. Et nous devons comprendre que l'Église doit passer par différentes étapes de croissance, de même que le chrétien individuel qui est membre de cette Église doit lui aussi, en tant qu'homme neuf dans son petit univers, il doit lui aussi grandir, et l'Église grandira dans la mesure où ses membres grandiront. Donc il y a une espèce de croissance générale, de loi de croissance pour les membres de l'Église en tant qu'homme neuf individuel, et pour l'Église en tant qu'homme neuf en Christ collectif. Et je crois qu'il y a bien des textes de la Bible qui nous parlent de cette croissance nécessaire. Et nous devons comprendre que de même qu'il y a des croyants, des chrétiens qui sont des bébés, qui doivent devenir des adolescents, qui doivent parvenir à l'âge adulte, il y a des églises qui sont des églises bébés. Des églises qui sont adolescentes et qui devraient être des églises adultes, que toute église doit tendre à être une église adulte. Je pense par exemple à ce qu'écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, la première aux Corinthiens, chapitre 3, où il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Cette église de Corinthe, que quelquefois on nous présente un peu comme une église modèle, était en fait une église bébé, encore au biberon. Et il faut que l'apôtre lui donne du lait. C'est d'ailleurs aussi une expression que Pierre prend dans sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et il me semble que les trois étapes de la vie sont esquissées par ce passage que nous avons lu dans la première épître de Jean, au chapitre 2, je n'ai pas le temps ici de discuter le problème, car c'est un problème exégétique assez ardu, de savoir exactement ce que sont ces petits-enfants dont il parle, ces pères dont il parle, ces jeunes gens dont il parle. Pour ma part, je crois que ce sont trois étapes de la vie chrétienne qui justement nous surprennent un peu par cette interversion de pères et de jeunes gens. On s'attendrait qu'il parle d'enfants, de jeunes gens et de pères. Or, l'arrangement constant est petits-enfants, pères et jeunes gens ou jeunes adultes. Et sans vouloir aller trop dans le détail, je pense que les petits-enfants, ce sont tous les chrétiens, tous les nouveau-nés en Christ, qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont nés de nouveau, et qu'ils ont trouvé un père. C'est la découverte de la nouvelle naissance, que nous ne sommes pas des épaves, mais nous sommes des fils et des filles. Puis ensuite, je crois que la qualité de père, c'est la deuxième étape quand nous nous apercevons que non seulement nous avons la vie, mais que nous devons donner la vie, que nous devons transmettre la vie à d'autres, et que nous devons être capables de les prendre en charge, que nous sommes capables de prendre des responsabilités. Et ce qui caractérise ensuite l'âge adulte, c'est la jeunesse. Vous remarquez d'ailleurs que justement dans cette perspective de la croissance spirituelle, il n'y a pas de sénescence et il n'y a pas de vieillard. C'est dans la société humaine. L'âge adulte, c'est précisément la jeunesse que Dieu renouvelle perpétuellement. Et ce qui caractérise cette jeunesse adulte, c'est la victoire. C'est la conquête de l'ennemi, parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est ainsi, me semble-t-il, que si nous pouvons appliquer ces trois étapes à notre vie personnelle, nous pouvons aussi l'adapter à notre vie d'église. Il y a des églises infantiles. Il y a des églises adolescentes, il y a des églises victorieuses, en pleine jeunesse, la jeunesse perpétuelle de l'action de l'esprit. Vous remarquez que ce qui caractérise ces différents actes, c'est au fond la relation qu'on peut avoir avec l'extérieur. On pourrait à la rigueur chercher cette expression d'anthropologie qui voit dans l'homme trois aspects. La relation avec l'extérieur, et c'est l'extérieur qui compte, c'est l'apprentissage de tous les sens. L'adolescence, c'est la découverte des émotions, découverte de l'autre, développement de l'intelligence, la prise de conscience de notre être intérieur. L'âge adulte, c'est la prépondérance de la vie de l'esprit sur tout le reste. L'âge adulte en Christ, c'est que notre esprit puisse vraiment conduire notre vie, notre esprit auquel l'Esprit de Dieu rend témoignage. Cet esprit, ce moi profond, qui peut être en relation personnelle avec le Christ, c'est cela, l'adulte spirituel qui marche par l'esprit et dans l'esprit, et qui n'est plus influencé par l'extérieur, mais qui est totalement conduit par cette force intérieure qui est la force même de l'esprit. Si vous voulez, c'est être conduit d'en haut et non pas d'en bas. La façon dont Jésus disait, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et au fond, si nous adoptons ces critères, nous comprenons ce que c'est pour une église d'être une église bébé. C'est être impressionné par l'extérieur, être influencé par le monde et ses modes, juger selon l'esprit du monde, être finalement une société parmi les autres qui ne se distingue guère des sociétés philanthropiques ou humanitaires ou culturelles qui peuvent exister dans le monde. C'est une église qui ne peut supporter que le lait, c'est-à-dire que les passages les plus compréhensibles et les plus faciles de l'écriture, heureusement qu'ils suffisent pour nous sauver, mais pas pour l'approfondissement de notre vie spirituelle. L'église adolescente, c'est une église déjà plus avancée, qui est capable de gagner les autres, d'amener des conversions, qui est capable de se multiplier, mais qui est encore très influencée par les émotions et qui recherche surtout une vie d'expérience, de sentiments, d'émotions. Et je crois que cette Église est souvent la proie de ce qui secoue nos émotions,
la jalousie, la colère, l'esprit du jugement. Et dans notre intelligence, la séduction des philosophies, des idées courantes, et aussi le péché d'orgueil, attaché à l'Église, une importance qu'elle n'a pas et souvent au détriment de son chef. L'Église adulte, c'est l'Église où l'Esprit règne, qui marche selon l'Esprit, qui sait quel est le temple de l'Esprit et que la vie de l'Esprit est essentiellement une vie intérieure qui nous conduit, qui nous propulse, qui est notre énergie dans notre acte sur la terre. C'est cette vie de l'Esprit que l'apôtre décrit au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que je vous conseille, qui permet à l'Église d'accomplir vraiment le dessein de Dieu et de vivre sur la terre, déjà, la vie du ciel. C'est une vie qui, bien sûr, est plongée dans le monde et se préoccupe de l'extérieur, mais non pas pour que l'extérieur presse vers l'intérieur, mais pour que l'Église soit tellement remplie de l'Esprit intérieurement que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que s'exerce l'énergie et la puissance de l'Esprit. À ce moment-là, c'est une Église dynamique qui, en plein dans le monde, peut agir sur la société, non pas en suivant ses modes, mais en lui apportant la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Église doit croître perpétuellement, en nous rappelant que l'Église, comme tout organisme humain, ne peut pas rester stationnaire. C'est une utopie que de s'imaginer qu'on est capable de maintenir l'Église telle qu'elle, où elle avance, où elle recule, où elle redescend la pente, où elle avance. Et nous avons malheureusement des exemples dans la Bible d'églises qui ont reculé, comme ces églises des Galates, à qui l'apôtre Paul écrit « Vous avez bien commencé, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Vous êtes redescendu dans l'échelle de la croissance. » Et si nous examinons ce que nous dit ce deuxième chapitre de la première épître de Jean, nous voyons que le grand remède, le grand secret de tout cela, c'est notre relation de chacun avec Jésus, par la parole et par la prière. Cette communion qui seule nous permet d'être en communication par l'Esprit avec Dieu lui-même et avec Jésus son Fils. Et c'est ainsi que nous devons comprendre que Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires pour que nous puissions croître. C'est en obéissant par la foi que nous pouvons découvrir cette marche dans l'Esprit qui nous permettra d'être l'Église que Jésus veut. Et je termine par cette exhortation de l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, au verset 17 et 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.